Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est La Lentille au micro de Radio Tranxène sur Radio Judaïka. Et j'espère, oui, j'espère, vous me connaissez, je suis optimiste, que vous allez bien. Samedi dernier, fatiguée de vivre entre quatre murs, j'ai claqué la porte de mon appartement pour descendre dans le parc au pied de chez moi. Il faisait beau, j'avais un livre sous le bras, mes lunettes de soleil sur le nez et mes gambettes nues dans le vent doux d'un mois de mars particulièrement clément. Je me suis assise sur un banc, j'ai sorti mon roman et je l'ai posé à côté de moi, amusée par une scène se déroulant de l'autre côté de l'allée. Deux femmes d'une trentaine d'années, assises sur un banc, regardaient en l'air, regardaient par terre, regardaient les passants, bref, regardaient partout sauf là où se trouvait l'autre. Imaginez un silence gêné. Soudain, l'une des deux pointe du doigt un écureuil dans l'arbre derrière moi, mais c'est elle que l'autre regarde avec des yeux un peu brillants, timides, profitant du fait que l'attention de la première soit captée par ce petit rongeur pour la dévorer du regard. Lorsque la première détourne enfin ses yeux de l'arbre, la voilà qui se retrouve nez à nez avec sa voisine, fascinée et silencieuse. Elle se regarde sans rien dire pendant une dizaine de secondes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est long, hein, 10 secondes. Pendant ce temps-là, moi, je trépigne sur mon banc. Dans les films, c'est le moment où les personnages s'embrassent enfin après moult péripéties et quiproquos. Le moment où l'amour et le désir triomphent des timidités, des conventions et des difficultés. Oui, mais voilà, dans les films, les personnages ne portent pas de masques chirurgicaux en tissu. Dans les films, les expressions du regard des personnages ne se succèdent pas comme des nuages blancs dans un ciel d'été, passant de l'écarquillement de surprise au léger plissement d'un sourire. Bon, je me sens un peu impolie, hein. L'idée me traverse l'esprit de baisser les yeux et de me mêler de mes affaires, mais je suis curieuse de savoir comment elles vont venir à bout de cette situation. Des dates dans les bars strasbourgeois, j'en ai vu quelques-uns. Je les connais, les regards gênés, la lueur de détermination dans le regard avant de se lancer pour embrasser l'autre, et les rires des amis croisés par hasard qui ne manquent pas de faire deux ou trois allusions bien lourdes. Bref. Celle qui avait pointé l'écureuil du doigt semble sourire. Un gamin déboule en hurlant de rire sur son vélo à roulettes, sur l'allée. Les deux femmes le regardent en discutant. Le moment de grâce est passé. Mais la jeune femme à l'écureuil a glissé sa main dans celle de l'autre, qui a posé sa tête sur son épaule. Bon, j'ai pas vu de fiole de gel hydroalcoolique, mais j'ai pas envie de reprendre mon roman. Je souris un peu bêtement. Il y a des scènes qui sont quand même vraiment beaucoup plus belles, en vrai, que dans les films.
Radio Tranxène, c'est...
Cette semaine, sur Radio Tranxène, nous vous proposons une édition spéciale. Depuis le 9 mars, des étudiants du Théâtre National de Strasbourg occupent le TNS jour et nuit. Ils se battent pour obtenir une nouvelle année blanche pour les intermittents du spectacle, pour obtenir des mesures de soutien à la culture. Ils luttent également contre l'adoption de la réforme de l'assurance chômage, craignant ses effets pour les plus précaires. La Fée Bleue est allée à leur rencontre, c'est notre interview du jour.
Donc je m'appelle Antoine et je suis l'un des occupants du Théâtre National de Strasbourg depuis 3 semaines maintenant.
Donc ça veut dire que toi et d'autres occupants, vous vivez, vous mangez, vous dormez ici depuis 3 semaines.
Ouais, c'est ça, on a décidé ensemble de venir habiter ce théâtre, d'y rester 24 heures sur 24, pour se dresser ensemble contre des mesures contre un manque d'accompagnement auquel on fait face nous en tant qu'artistes et en tant que jeunes et futurs entrant dans le monde du travail. Donc voilà, on est là tous les jours ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble et on s'organise ensemble. C'est un espace de pensée collectif qu'on a composé ici en étant tous les jours ensemble.
Et du coup, c'est quoi votre journée type ici ?
Du coup, on est tous divisés en plusieurs pôles qui, les matins, travaillent un peu à leur mission, quoi. Ça arrive qu'il y ait des sorties, ça arrive qu'il y ait des tractages, ça arrive qu'il y ait... Voilà, il y a des différentes applications qui se mettent en place tous les matins. Et puis à 13h tous les jours, on a ce qu'on appelle le forum, qui est un rendez-vous quotidien pour la population de Strasbourg pour lesquels on tracte. L'idée, c'est de préparer une petite forme performative qui va juste servir à l'introduction du débat, d'un micro ouvert autour duquel les gens pourront venir partager leurs histoires ou leur avis, quoi. Donc ça, c'est tous les jours à 13h, ça dure 1 heure à peu près. Et après, l'après-midi, ça dépend. Là, en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc il y a peu de cours, mais il y en a qui vont en cours, il y en a d'autres qui vont moins en cours. Et puis, les pôles continuent à travailler. C'est vraiment... On essaye de maintenir nos missions un peu, maintenir le cap. Après, le soir, c'est l'Assemblée Générale Interne d'Organisation, quoi.
Et là, quand tu parles, je me pose une nouvelle question, en fait. C'est surtout comment ça vous est venu à l'idée de venir ici? Comment il y a eu le déclic de se dire, OK, on occupe maintenant avec ces personnes, on vient et on reste?
Nous, dans la culture, ça fait vraiment très longtemps qu'on est... Enfin, ça fait depuis un an que, comme tout le monde, on subit les mesures de confinement, etc., les mesures un peu sévères par rapport à la pandémie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a de perspective, que ce soit à court terme sur la réouverture des lieux culturels, mais aussi sur le long terme, et c'est surtout ça qui nous importe. Sur le long terme, sur les possibilités qu'on va avoir dans le monde du travail. Et en plus de ça, s'ajoute en juillet, et ça c'est notre revendication principale, il y a une entrée en vigueur d'une réforme des allocations chômage qui va attaquer gravement une grande partie des allocataires et qui va juste enfoncer le couteau dans la plaie déjà béante de la précarité, quoi. Et c'est quelque chose qui nous indigne profondément. Et pourquoi on a décidé d'habiter le théâtre? En fait, c'est un mouvement qui a été lancé par le théâtre de l'Odéon à Paris, qui en fait a été... Nous, notre cas de figure est un peu différent, mais eux, ils ont été vraiment pris... Il n'y a pas d'école au sein du théâtre de l'Odéon, donc c'est vraiment des intermittents, des syndicalistes... Et des représentants d'autres professions aussi, parce que ce mouvement-là, il se mobilise pas que pour les professions du spectacle, mais beaucoup aussi pour tous les précaires, les chômeurs. Au final, tout le monde est concerné par cette réforme de l'assurance chômage, mais aussi les intermittents du travail, qui sont des gens avec qui on travaille beaucoup, nous, dans le spectacle. Tu vois, les restaurateurs, les traiteurs, les choses comme ça, les extras, les saisonniers, des gens qui sont amenés beaucoup à collaborer avec nous et qui, eux, n'ont pas le droit à l'intermittence à laquelle nous, on a droit. Donc on se bat aussi pour ces gens-là, ce mouvement-là est en soutien de ces gens-là. Et donc il y a une partie, quelques représentants de ces différents métiers qui ont pris le contrôle de l'Odéon le 4 mars et qui ont lancé l'occupation de l'Odéon. Et nous, en quelques jours, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on suive le mouvement, il faut qu'on y aille, il faut qu'on exprime nos voix. Et on s'est organisé en 2-3 jours et puis on a pris la décision d'habiter le théâtre. Et puis c'est... En envoyant du coup des messages aux écoles nationales, tu vois, on a pas mal échangé entre élèves d'école nationale pour dire ok, c'est le moment aussi, nous en tant qu'étudiants, de faire entendre nos voix et d'amener un soutien, quoi. Et c'est ce qui a lancé du coup l'occupation ici au TNS, à la Colline, à Paris, et puis après dans d'autres théâtres, etc.
C'est vraiment incroyable, donc c'est vraiment une vraie solidarité qui s'est menée. Donc ici, il n'y a vraiment que les étudiants de l'école qui sont en occupation.
Et c'était le cas jusqu'il y a 2 jours. Il faut savoir qu'ici, on est dans une relation assez précise avec la direction qui nous autorise. Enfin, voilà, comme c'est un bâtiment, c'est pas la même quoi de figure que, par exemple, à l'Odéon, où par le fait qu'ils entrent dans le bâtiment, alors qu'ils y sont pas autorisés, ils sont déjà dans un conflit net avec la direction, alors que nous, c'est un bâtiment dans lequel on a nos cours. Du coup, nous, on a le droit de rentrer dans ce bâtiment. Donc, l'habitation, c'est pour ça qu'on l'a appelé habitation au début. N'était pas aussi conflictuelle que peut l'être celle de l'Odéon, par exemple. Mais voilà, on négocie de fil en aiguille et on arrive à faire rentrer des gens extérieurs. Et donc ça fait aujourd'hui 2 nuits qu'il y a des personnes extérieures qui viennent dormir avec nous. Ouais.
J'avais une autre question par rapport à tout ce qui pouvait se dire durant vos âgés. Est-ce que, par exemple, vous avez des revendications claires Surtout, en plus, je pense, avec les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées par notre président. Est-ce que ça a bougé des choses? Est-ce que ça a remis en question des autres choses?
Alors, je vais te répondre en deux temps. Sur le fond des âgés, nos revendications, elles ont été établies au début du mouvement, et celles-là, elles sont assez claires. On les débat maintenant plus, on est tous d'accord sur ces revendications-là dont la principale est l'annulation de la réforme chômage. Il y en a une autre aussi importante qui est la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle et étendre cette année blanche à tous les autres intermittents du travail qui la méritent tout autant. Voilà, et après on demande aussi des mesures d'accompagnement claires pour les primo-entrants, les jeunes qui sortent d'école et qui font face à un monde du travail saturé, quoi, parce que voilà, toutes les programmations, du coup, comme il y a eu des reports, tous les spectacles de l'année dernière ont été reportés. On a 2 ans, 3 ans presque de programmations qui sont faites déjà. Et donc nous, on va sortir d'école et on n'aura aucun espace pour pouvoir faire nos heures et pour pouvoir accéder à l'intermittence. Donc on demande à la fois un abaissement du nombre d'heures pour les primo-entrants pour pouvoir accéder au statut d'intermittence. Et en plus de ça, on demande aussi à ce que dans les programmations, des théâtres subventionnés, il y ait un quota ou il y ait en tout cas une aide à l'insertion, enfin, que les directeurs, les programmateurs et les programmatrices, etc. soient tenus de programmer des jeunes créations dans leur programmation. Voilà, ça c'est à peu près nos revendications. Il y en a qui varient aussi en fonction des lieux, il y en a différents, il y en a qui s'ajoutent, etc. Et après, sur les annonces de Macron hier, c'est un peu encore prématuré. On en a beaucoup parlé hier soir, hein, là j'ai été très longue pour parler de tout ça justement. Évidemment, c'est des choses qu'on prend en question, même si voilà, on a poussé ce cri pour nos situations, la situation de tous les précaires qui sont touchés de près ou de loin par l'assurance chômage. Voilà, il faut rester aussi connecté à ce qui se passe dehors, et on sait que aujourd'hui la pandémie elle reprend une forme grave. Donc on reste à l'écoute de ça. On ne sait pas dans quelles conditions. Voilà, parce que Macron, il est toujours, c'est toujours aussi flou quand même. Enfin, voilà, il a le don de maintenir un flou depuis un an. Donc, on a beau avoir écouté les annonces hier, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si le théâtre va fermer définitivement ou si le travail sera quand même autorisé. Et alors, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait continuer l'habitation. On se pose beaucoup de questions, on prend ça en compte, mais il n'y a encore aucune décision qui a été prise, quoi.
Donc si je peux résumer en tout cas ta parole, c'est qu'actuellement il n'y a pas encore de réponses qui ont été vraiment données à toutes vos revendications, malgré le fait qu'il y a depuis 3 semaines des théâtres sont occupés.
Donc il faut savoir quand même qu'il y a près de 100 théâtres occupés, hein, c'est assez conséquent. Partout en France, il y a même eu des mouvements de soutien au Théâtre National de Bruxelles. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu la semaine dernière, il y a eu une manifestation à Paris qui a débouché sur un rendez-vous au ministère du Travail. Avec des représentants de la CIP, donc la coordination des intermittents et précaires, et des délégués syndicaux, je crois. Et le ministère du Travail, déjà, ça n'arrête pas de faire il se décharge de plusieurs choses. Au ministère du Travail, il est question de parler de l'assurance chômage, mais quand il est question de parler de l'année blanche, ils disent « Ah non, non, mais ça, faut aller voir au ministère de la Culture et tout ça. » Enfin, bon, c'est des problèmes comme ça. Mais justement, sur cette question de l'année blanche, je disais ça en exemple, mais c'est pas vrai, ils ont été très clairs là-dessus. Là où pour nous c'est essentiel qu'il y ait cette année blanche, pas pour nous en tant qu'étudiants parce qu'on n'y est pas directement affilié, mais il y a une quantité phénoménale d'intermittents et d'intermittentes aujourd'hui qui ne vont pas réussir à faire leurs heures parce que tout est fermé depuis un an, qu'ils n'ont pas pu avoir assez de contrats, que là l'année blanche elle se termine le 31 août et qu'ils auront probablement maintenant en plus avec les nouvelles mesures de confinement, alors que Roselyne Bachelot nous promettait une réouverture courant avril, mai, là ça me semble compromis. Donc là, et qui elle axait son argumentation sur le fait que ça allait réouvrir bientôt et qu'ils pourraient faire leurs heures, ce qui n'était déjà pas vrai. Et en plus de ça, maintenant, ils sont vraiment encore plus en train de tomber dans le gouffre. Donc la prolongation de cette année blanche, elle est essentielle, elle est vitale pour énormément de personnes qui sont déjà en train de galérer vraiment financièrement. Et le ministère du Travail a été très clair, ils ont dit, non, pour les paraphraser, l'année blanche est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc c'est la seule réponse qu'on a eue, qui est pour l'instant une réponse. Toutes les autres réponses étaient des oh, « pff, on verra, pff, vous savez, pff. » Là, je dis « on », c'est des représentants qui ont été à Paris, mais on en a eu écho. D'avoir cette réponse-là, ça met au moins le gouvernement dans une position très claire par rapport aux professions du spectacle. Nous, on se sentait à l'abandon depuis un moment parce que la fermeture des lieux culturels, elle n'avait aucun sens par rapport aux décisions qui étaient prises d'ouvrir certains lieux et d'autres non. C'est la même chose pour les universités. Il y a vraiment un moment où on a été patient, on s'est dit que c'était ce qu'il fallait faire, probablement pour freiner la pandémie. Et en fait, quand on voit que, sans blâmer personne, mais voilà, il y a des lieux qui sont ouverts et d'autres non. Par exemple, il y a les salles de vente, les salles d'enchères sont ouvertes, les lieux de culte sont ouverts, alors que je ne vois pas exactement ce qui sépare une salle de vente d'une salle de spectacle. Ou le Parlement d'un amphithéâtre, quoi, de d'université. C'est assez particulier. Donc, en fait, face à cette incompréhension, face à cette illogique, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais en fait, on nous stigmatise, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire? Pourquoi on ne nous laisse pas nous exprimer? Pourquoi certains peuvent et d'autres non? Voilà, il y a des incohérences comme ça qui font qu'aujourd'hui on s'est dressé là et d'enfin, en fait, c'est assez satisfaisant d'avoir enfin une réponse claire du gouvernement qui nous dit non, on ne vous aidera pas. Au moins, on sait que ce qu'on pensait, on avait un bon pressentiment, quoi, qui était mauvais du coup.
Ben, j'aurais voulu finir cette interview sur quelque chose peut-être de positif. Est-ce que aujourd'hui ici, vous avez de l'espoir vis-à-vis d'une possible réouverture, vis-à-vis de nouveaux champs à observer ou de nouvelles possibilités qui pourraient arriver bientôt? Est-ce que vous avez de l'espoir, en tout cas, vous, ici, encore?
Bien sûr qu'on a de l'espoir, sinon on ne serait pas allé au bout de ce mouvement, enfin, on n'y serait pas allé pleinement. Je pense que nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, je parle vraiment de ici l'occupation au TNS, parce que voilà, on est tous élèves ici, on a tous aussi cette force un peu de la jeunesse et cette insouciance. Parfois, on fait des erreurs aussi. Mais avant tout, ce qui nous porte, c'est l'espoir. C'est de se dire qu'on se bat pour notre avenir, pour construire quelque chose de nouveau. Sinon, on ne le ferait pas. Sinon, on ferait comme tous ceux qui ferment les yeux et qui juste continuent à travailler en attendant que voilà, les choses se passent. Aujourd'hui, nous, on a décidé de prendre nos vies en main, d'une certaine manière, quoi. Et évidemment qu'on est porté par l'espoir. On se fait pas d'illusions non plus. On se dit pas que dans une semaine, on aura victoire absolue sur toutes nos revendications. On n'est pas fous. On sait à quel gouvernement on fait face aussi. Non, mais on a conscience qu'on s'est lancé probablement dans une lutte qui sera une lutte de longue haleine, qui va, même si l'occupation se termine, sans l'obtention de... Enfin, il n'est pas question qu'on n'ait pas l'obtention de nos revendications à l'issue de cette occupation, mais la crise sanitaire veut que c'est possible qu'on doive y mettre fin, que voilà, de toute façon, il y a un jour où ça va arriver à son terme. On sait très bien que le combat va continuer encore après, sous différentes formes, de différentes manières. On est prêt à le mener ensemble. Et évidemment qu'on a de l'espoir, sinon on n'aurait jamais fait ça.
En tout cas, c'est un très beau mot de la fin. Merci en tout cas de m'avoir accordé ces instants.
Avec plaisir.
Radio Tranxène, c'est...
Cette semaine, c'est Babouchka qui s'empare du micro de la malle sur Radio Tranxène. En ces temps confinés, il nous emmène sur les sentiers de randonnée, avec ceux qui veillent sur la bonne direction qu'empruntent nos pieds.
Chères toutes, chers tous, bien le bonjour à notre chère patrie, printemps qui renaît, douceur qui s'installe, pollen qui surgit, nez qui coule et compagnie. Si l'univers a réuni bouches et oreilles aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en a toujours pas fini avec la confinerie. Besoin de crever cet horizon terne ? Laissez-moi mettre les cailloux sur les cairnes. Départ à l'aube ou en fin d'après-midi, barre de céréales au rouge pour le midi, seul, en bande ou en famille, pour l'esprit, l'objectif, la beauté, la vie, le temps, l'envie. Tant de possibilités, tant de différences, tant d'attentes, mais finalement un seul dénominateur commun.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Il nous fait converger vers la détente et la plénitude. Le chemin nous rassemble. Il est encore un espace où il est coutume de se saluer, au contraire de la rue. Alors allons-y, prenons le large, prenons la tangente, célébrons l'école buissonnière, arpentons-le, ce chemin. Et l'orientation, me direz-vous ? Face à cette grande dame, c'est sûr que personne n'est logé à la même enseigne. Mais ne paniquez pas. Depuis la nuit des temps, une confrérie œuvre dans l'ombre, sillonne les lieux-dits, les refuges. Une société secrète au pied de Vibram et Gore-Tex traverse les âges et les forêts pour nous ouvrir la voie. Ces équipés sauvages bravent le froid et les vents, nous offrant leur temps, leur énergie, leur RTT. Tout cela dans le seul but d'être notre bouée. Jalon après jalon, ces apôtres de la balade mènent les troupes endimanchées à bon port. À l'instar d'un phare en pleine tempête, ces gens nous guident, nous prennent par la main. Nonchalamment, ils nous montrent le chemin. Mais qui est là pour prendre soin de ces gens? L'éloge n'est pas aveugle, rassurez-vous. À maintes reprises, le marquage établi par la Fédération française de randonnée pédestre peut être hasardeux et d'une logique douteuse au milieu des sentiers poissons bleus, croix rouges et carrés verts. Mais il fallait bien un hommage haut en couleur à ces activistes de la rando, ces ouvreurs et ouvreuses qui ne déchirent pas votre ticket, mais qui rendent la bouffée d'air accessible aux bobos qui, eux, d'un revers de carte, se croient dans la peau de Magellan, qui d'un revers de main pollue impunément. Mais ne vous y trompez pas.
Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop. Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot.
Sur ces paroles, chères toutes, chers tous, on prend soin des uns des autres. On n'oublie pas de dire bonjour quand on croise autrui sur le chemin. Allez, au plaisir de se croiser sur un sentier.
Alain, sur Radio Tranxène. Eh bien, la lentille, j'ai l'impression que cette semaine, ce n'est pas une émission comme les autres. Hein. C'est vrai que tu as donné l'interview à la Fée Bleue, notre fameuse chroniqueuse. Mais je me dis qu'on n'a pas beaucoup parlé d'associations.
Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'une association, mais de plusieurs. Et pour commencer, d'une initiative qui s'appelle le Soliguide.
Le Soliguide.
Qu'est-ce que c'est ? Alors le Soliguide, c'est un site internet qui regroupe un certain nombre d'informations sur les lieux d'accueil, les associations qui maraudent et les services qui peuvent être apportés aux plus précaires.
Ah, tu restes dans ta ligne alors, toujours solidaire ?
Un petit peu, oui. Alors, on parle pas vraiment d'une association, mais de plusieurs. Pour commencer, on parle de Solinome, l'association qui est à l'origine du Soliguide. C'est un guide qui donne des informations sur une dizaine de villes en France. Et il y a un an, il est arrivé à Strasbourg. Donc, il y a des informations sur la ville de Strasbourg.
Ah, merci d'aider notre chère ville.
Alors, c'est pas compliqué. Quand on va sur le site, on a une demande de savoir ce qu'on cherche et à proximité de quoi. Donc, bah, si vous tapez Strasbourg, vous avez des informations sur les activités... sur les lieux d'accueil également, sur les maraudes. C'est assez complet et les pictogrammes sont plutôt clairs à comprendre. Petit plus, le site est disponible en anglais, en arabe et en français. Et il y a un petit chat que vous pouvez interroger pour...
Ah oui, donc on peut leur écrire dans n'importe quelle langue.
Voilà, le chat en fait traduit via Google Trad. Et donc vous pouvez poser un certain nombre de questions à la personne qui s'en occupe.
Super, donc c'est un site internet et pas une application, c'est ça ?
C'est ça. Donc parmi les services proposés, donc on vous parle d'accueil, de santé, d'activité, de matériel, d'alimentation également. Et ce qui est surtout très pratique, c'est que pendant cette période de Covid un peu particulière où beaucoup d'associations modifient leurs activités, peuvent plus accueillir comme avant, modifient leurs horaires de maraude, et ben le Soliguide centralise les informations et donne les informations en temps réel, donc les actualise régulièrement.
Ah, c'est à jour.
C'est à jour. Il y a même des associations comme Strasbourg Action Solidarité qui mettent sur leur vitrine un petit flyer avec les informations du Soliguide pour réorienter les gens.
Très bien, très bien. Ça, ils font quelque chose vraiment qui est d'intérêt public, hein, citoyen et solidaire. Ça me rappelle aussi l'activité qu'avait l'association La Cloche.
Alors en effet, La Cloche, qui est un réseau de commerçants solidaires qui propose des petits services aux personnes en situation de précarité, édite des listes, donc des magasins qui offrent des services, avec une cartographie de ces magasins et les services qu'elle propose. Donc c'est vraiment lié à son réseau, mais là, Soliguide, l'avantage, c'est qu'elle centralise des informations sur plein d'associations, donc de maraudes, des centres d'accueil. C'est là tout l'aspect positif, en fait, de cette initiative.
C'est super, ça. Et du coup, sur leur site, on a le choix d'avoir les informations en textuel, mais aussi de consulter une carte très accessible, quoi.
Tout à fait. Il y a une carte qu'on peut manipuler, hein, comme une carte Google Maps, pour voir un petit peu quels sont les lieux près de chez soi qui sont ouverts. Il y a des éléments, par exemple, sur les toilettes publiques qui sont ouvertes, ce qui est important en ce moment, comme il y a beaucoup moins de commerces d'ouverts où aller aux toilettes. Et comme il y a aussi moins d'ouverture des toilettes publiques, d'ailleurs. Ça a fait l'objet d'un article sur 89 Strasbourg.
C'est sûr, il y a des grands travaux qui sont entrepris sur Strasbourg, notamment les bains thermaux, plein de chantiers. Il y a des lieux comme ça qui sont essentiels, mais qui sont fermés.
Alors, le constat de l'association Solinome, qui est à l'origine donc, du Soliguide, c'est que 70% des personnes qui sont à la rue ont quand même un téléphone portable. C'est essentiel pour pouvoir s'informer, parfois pour faire des démarches. Mais tout le monde ne sait pas que ça existe. Là encore, 89 avait publié un article au printemps parlant d'un outil fantastique pour les plus démunis, mais qui le connaissent mal. Donc si vous aussi, vous voulez venir en aide à des personnes, vous pouvez leur signaler que cet outil existe et puis éventuellement prendre votre smartphone et chercher pour eux des informations, pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'il y en a aussi.
Super. Ben écoute, bonne continuation à Soliguide et allez consulter leur site internet.
Radio Tranxen, c'est...
Et c'est déjà presque la fin de notre émission, presque, car c'est l'heure de laisser le micro à notre maestro, celui qui connaît la scène strasbourgeoise dans ses moindres secrets, celui qui nous dégote de nouveaux talents dont vous n'avez pas encore entendu parler. J'ai nommé Papa Jeff, et aujourd'hui, c'est Red Mako qui est à l'honneur avec le funk rock, je crois.
Ouh là 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 là, tout à fait la lentille. Alors oui, effectivement, le funk rock est à l'honneur, hein. Tout plein de groupes intéressants à découvrir dans ce style-là, parce que ça pétarade. Alors, Red Mako and the Juliens, exactement. Vous avez déjà pu entendre parler d'eux dans l'émission Jazzologie, toujours sur Judaïka. Alors, c'est un groupe qu'il faut que vous connaissiez, donc on va en remettre une bonne couche. Red Mako and the Juliens est un sextuor énergique à base de groove funky, parfois très jazzy, puisant son punch aussi dans le reggae et le ska. En live, ce sont des claques à base de guitare funky et de cuivre qui matraquent des thèmes très catchy.
Ah, y a un côté très rock aussi qui se retrouve dans la construction de leurs morceaux, les explosions musicales qui ont lieu dans leurs lives. Puis dans les solos, on va pas se mentir, il faut les écouter. C'est à l'ancienne, ça tire sur le rock psyché, on trouve plein de bonnes refs aux années 70. C'est très instrumental, on sent que ce sont des musiciens qui aiment composer en se servant de l'improvisation. On devine qu'ils adorent chercher des moods, des ambiances, des textures dans leur studio pendant des heures. Dédicace aux bassistes et aux batteurs qui doivent tenir la rythmique qui dirige leurs morceaux. C'est deux personnes qui vont vraiment décider où s'oriente leur musique. L'enjeu se veut synthétique, pas de plan trop flashy comme on trouve partout sur Instagram aujourd'hui. C'est un duo costaud, le bass-bat, et c'est essentiel dans le funk rock.
Oui, bah bien sûr, le bass-bat, tout le monde sait ce que c'est que le bass-bat.
Ah, mais oui. Bon, en tout cas, c'est l'alliance de la batterie et de la basse pour poser l'essentiel du morceau. La puissance rythmique dépend d'eux. On va donner leur nom peut-être ?
C'est plus sympa.
Ouais, Maximin Bégin à la basse et Julien Royer à la batterie. Ils permettent au cuivre et à la guitare de se lâcher, et de ce côté-là, Red Mako est très généreux. Ils sont bien sûr de bons compositeurs, ils savent sélectionner les thèmes qui marchent, harmoniser, rendre les trucs catchy, comme je le disais, donner même parfois un côté cinématographique dans leurs morceaux instrumentaux. Déjà, faudrait que vous imaginiez venir à un de leurs concerts, 22h passées, Strasbourg by night, Red Mako a garé les motos dans la crute, attention, des bécanes couleur lapis lazuli, avec des pots d'échappement qui réveillent ton abrapas. C'est le premier concert depuis le déconfinement, et pour l'occasion, le groupe s'est offert un sound system colossal, histoire d'achever l'intégralité du voisinage. Vous assistez Béa à la mise en route de l'éclairage qui vous laisse observer une très brillante et très disproportionnée boule disco. Elle commence à tourner. Paf, basse batte à l'arrière, et oui, c'est le job, dans l'ombre. Ensuite suivent la guitare de Francesco Silvestrini et Edern Pamar. Ensuite, au niveau des cuivres, on a Julien Grenouillet et Rémi Cato. Eux, c'est les frontliners, ceux qui sont collés à leur public déchaîné, qui arborent pour l'occasion des pantalons et des coupes de cheveux que seule Cause Magazine peut encore publier. Et ça danse, ça danse! Heureusement que le groupe a pensé à mettre à disposition du public des distributeurs de cacahuètes caramélisées, hein. Marque de fabrique, oh, ils prennent soin de leur public. Les chineurs pourront trouver l'album Funkosphère, qui est sorti en novembre dernier, dans le magasin L'Occas de l'Oncle Tom à Strasbourg. Donc avis attention aux gens qui aiment acheter les EP en physique. Car oui, les disquaires sont ouverts en ce moment. Bon, il y aura un autre album autoproduit d'ici la fin de l'année, certainement des clips. On écoute maintenant le troisième morceau de leur album, sorti en novembre 2020. Le morceau s'intitule Underground, donc allez, on écoute Red Mako Underground.
fois-ci, c'est la fin, la vraie, de notre émission. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, et comme les temps sont durs et qu'on a parfois envie de se rouler en boule sous sa couette, sur son tapis de bain ou dans son canapé pour attendre le déconfinement, surtout quand on est seul, je vous laisse avec un poème de Cécile Sauvage. Vœux simples. Vivre du vert des prés et du bleu des collines, des arbres racineux qui grimpent aux ravines, des ruisseaux éblouis de l'argent des poissons. Vivre du cliquetis allègre des moissons, du clair allaitement des sources remuées, des matins de printemps qui soufflent leur buée, des octobres semeurs de feuilles et de fruits, et de l'enchantement lunaire au long des nuits. Que disent les crapauds sonores dans les trèfles? Vivre naïvement de sorbes et de nèfles, gratter de la spatule une écuelle en bois, avoir les doigts amers ayant gaulé des noix, et voir, ronds et crémeux sur les mailles des assiettes, des fromages caillés couverts de sarriettes. Ne rien savoir du monde où l'amour est cruel, prodiguer des baisers sagement sensuels, ayant le goût du miel et des roses ouvertes, ou d'une aigre douceur comme les prunes vertes, à l'ami que, bien seul, on possède en secret. Ensemble, recueillir le nombre des forêts, caresser dans son or brumeux l'horizon courbe, courir dans l'infini sans entendre la tourbe bruire étrangement sous la vie et la mort, ignorer le désir qui ronge en vain son mort, la stérile pudeur et le tourment des gloses. Se tenir embrassé sur le néant des choses, sans souci d'être grand ni de se définir, ne prendre de soleil que ce qu'on peut retenir, et toujours, conservant le rythme et la mesure, vers l'accomplissement marcher d'une âme sûre. Voir sans l'interroger s'écouler son destin, accepter les chardons s'il en pousse en chemin, croire que le fatal a décidé la pente et faire simplement son devoir d'eau courante. À vivre ainsi, donner seulement ce qu'on a, repousser le rayon que l'orgueil butina, n'avoir que robe en lin et chapelet de feuilles, mais jouir en son plein de la figue qu'on cueille. Avoir comme une nonne un sentiment d'oiseau, croire que tout est bon parce que tout est beau, semer l'hysope franche et n'aimer que sa joie, parmi l'agneau de laine et la chèvre de soie.
Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphènes.